Radio Kapi. Oh, Kapi. Grâce à Mzati pour le journal.
Poursuite du procès contre l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba à la Cour de cassation pour détournement présumé de 19 millions de dollars. À l'audience publique de ce mercredi, le prévenu a réclamé la comparution de plusieurs témoins, dont la première ministre Judith Suminwa. Nous en parlons dans quelques instants avec Jeff Ngoy. Les épreuves de l'examen d'État édition 2025 prennent fin ce jeudi 31 juillet à travers le pays. Dans ce journal, nous vous ferons le point sur le déroulement de ces épreuves dans la ville de Kananga au Kasaï Central en écoutant les élèves concernés. Notre invité est Roger Claude Luanga, professeur de droit et des négociations internationales avancées à l'université Emory aux États-Unis d'Amérique. Il propose un instrument pour mesurer l'application de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin dernier à Washington entre la RDC et le Rwanda. À toutes et à tous, bonjour. Justice pour commencer. La Cour de cassation renvoie la cause au lundi 4 août prochain au procès contre l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba. À l'audience publique de ce mercredi, le prévenu a sollicité une petite pause pour lui permettre, selon lui, de prendre quelques médicaments à des heures bien précises pour sa santé. À cette audience, la Cour a fait acter la liste des renseignants ou témoins devant comparaître à la prochaine audience. Elle a rejeté deux requêtes d'inconstitutionnalité soulevées par la partie défenderesse qui exigeait la surséance de la cause. Ainsi, elle décide de poursuivre l'instruction. Jeff Ngoy.
Le ministère public annonce les noms de ses témoins, notamment le directeur général intérimaire de la Direction générale des marchés publics, le secrétaire général au ministère de la Justice, le directeur général de Frivao, ainsi que le gestionnaire de l'immeuble abritant le siège supposé des Ian Construction. Poursuivi pour détournement présumé de plus de 19 millions de dollars, le prévenu réclame la comparution de plusieurs témoins, dont la première ministre, Judith Suminwa, les ministres des Sports et des ITPR, le secrétaire exécutif de la CNRF et l'ancien IGF Jules Alinguété avec son successeur. La Cour prévoit quant à elle la comparution de l'expert de l'autorité de régulation des marchés publics et le responsable des Ian Construction. Au cours de cette troisième audience, la défense est revenue sur ses exceptions d'inconstitutionnalité sur pied de l'article 162 de la Constitution. Le but étant d'obtenir la surséance de l'instruction au niveau de la Cour de cassation en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle saisie à cet effet. Selon le ministère public, les requêtes de la défense attaquaient les actes réglementaires de l'Assemblée nationale et l'arrêt avant dire droit de la Cour rendu le 23 juillet, ce qui ne constitue aucune entrave à la cause d'après l'organe de la loi. Requête donc rejetée par la Cour.
Vous le savez, les épreuves de l'examen d'État se terminent ce jeudi sur l'ensemble du pays. Pendant les trois premiers jours, elles se sont déroulées sans incident majeur dans les différents centres de la ville de Kananga, au Kasaï Central. Depuis le début de la semaine, des milliers de finalistes se rendent chaque matin dans les écoles pour affronter les épreuves qui scelleront la fin de leur cycle secondaire. François Kadima est parti à la rencontre de certains finalistes. Voici son reportage.
Devant l'école Djanoa Chili, plusieurs finalistes se présentent dès 7h du matin, certains révisant quelques notes de dernière minute. Les autorités éducatives locales de leur côté se félicitent du bon déroulement de ces épreuves depuis la première journée. De surveillance stricte, mais bienveillant, veille à ce que les consignes soient suivies à la lettre. Cet élève rencontré revient sur les déroulements de ces épreuves.
Je m'appelle Kadima Mutombo Beniel. Pour aujourd'hui, nous avons eu à faire les examens de l'option. Les questions étaient abordables et c'était sur les matières vues. Je fais allusion au fait que ce sont des questions que nous avons eues à travers en classe sur les matières étudiées.
Cette autre fille interrogée devant l'école Sangabantou après avoir passé son examen parle à ses autres camarades d'élèves finalistes.
Aux camarades d'élèves comme moi de se concentrer, de ne pas toujours être trop accro au téléphone parce que ces 4 jours sont des jours à travers lesquels un élève doit vraiment se concentrer. Ne plus dormir tardivement, dormir à temps pour se réveiller à temps.
Les épreuves d'État continueront avec un mot d'ordre partagé par élèves encadreurs, discipline, concentration et espoir. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Et à Bounia, dans la province de l'Ituri, la police avertit les élèves contre toute tentative de perturber l'ordre public par des manifestations ce jeudi à l'occasion de la fin de ces épreuves de l'examen d'État. Le commandant urbain de la police rappelle que la ville et ses environs sont confrontés à une menace sécuritaire et que des forces de l'ordre seront déployées pour garantir la sécurité. Le commissaire supérieur Gérard Abbé Limwangu donne des précisions sur ces mesures au téléphone de Jean-Claude Lokidile.
Aux élèves finalistes de ne pas manifester leur joie sur la voie publique en jubilant avec des motos, véhicules, au risque que les hors-la-loi en profitent pour perturber l'ordre public. Aux parents, de déconseiller aux enfants finalistes de se livrer à des actes de vandalisme et de manifestations sur la voie publique après les épreuves des examens d'État. De bien vouloir prendre soin de leurs enfants et de les instruire quant à ça. Aux motocyclistes, de rouler à une vitesse minimale dans les agglomérations, 20 km à l'heure. Ne pas transporter plus d'une personne sur une moto. Ne pas conduire à l'état d'ivresse. Ne pas céder les motos aux locations aux élèves finalistes ou à des personnes inconnues. Enfin, aux agents qualifiés de PCR, faire respecter les stricts codes de la route. Observer une courtoisie routière.
Nous restons à Bounia pour parler de ces drames. 3 morts et 14 blessés. C'est le bilan d'une fusillade, c'est mercredi dans la soirée au quartier Yambiyaya, dans la commune de Mbounia. Dans sa communication, la police parle des hommes non identifiés qui ont tiré à bout portant sur des personnes dans une terrasse. Récit des faits avec vous, Martial Kiza Biamungu.
Selon des témoins, il est 19h40, heure de Bounia. Trois hommes sur une moto s'érigent devant une terrasse au quartier Yambiyaya et entrent à l'intérieur. Du coup, ces hommes armés non identifiés tirent à bout portant une dizaine de coups de balles sur tout ce qui bouge et prennent la fuite sur la même moto. Les clients qui s'y trouvent sont les principales victimes. C'est les sauve-qui-paient. La police nationale congolaise avance dans son communiqué un bilan de 3 personnes décédées sur place, dont une femme. 14 autres personnes gravement blessées sont acheminées à la clinique Salama, non loin du lieu du drame, pour les soins. Parmi elles, un militaire de l'auditorat indique la police. Le colonel Abeli Mwangu, commandant de la police ville de Bounia, appelle la population à multiplier la vigilance et à collaborer avec les services de sécurité. Avant cette fusillade, plusieurs témoins retrouvés sur le lieu du crime disent avoir vu un homme armé habillé en tenue de la police en état d'ivresse tourner plusieurs fois autour de cet endroit. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
En plus bref, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a accordé ce mercredi une audience à M. Shafi Al-Hajri, chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar en RDC. Les échanges ont porté sur le processus de paix avec un accent particulier sur le processus de Doha, ainsi que sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de la santé et de l'éducation, en vue de promouvoir une prospérité partagée au bénéfice des deux peuples. Autre nouvelle sur la fréquence de la paix. En marge de sa mission officielle à Oyo, dans le cadre des travaux des commissions techniques mixtes défense, sécurité et frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a effectué mardi une visite éclair au camp de Bouemba, qui abrite 8583 réfugiés congolais de la RDC, majoritairement déplacés après les violences de Yumbi en 2018. Les détails avec Alain Rungmushinge.
Portant un message de réconfort du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Jacquemain Chabani a exprimé la solidarité de la nation et réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la paix et de la cohésion entre les communautés. Il a annoncé l'organisation prochaine d'un forum de paix dans la province du Maïndombé, dans le cadre de la politique nationale de règlement des conflits pour parvenir à une pacification durable des territoires concernés, condition essentielle à un retour volontaire sûr et digne des réfugiés dans leur village d'origine. La paix est en marche vers vos villages d'origine. Vous pourrez ainsi, le moment venu, retourner volontairement et en toute sécurité dans vos foyers, a-t-il déclaré. Le vice-premier ministre a saisi cette occasion pour remercier, au nom du gouvernement de la RDC, les autorités du Congo-Brazzaville pour l'accueil et l'hospitalité accordée aux réfugiés et a remis une aide d'urgence pour répondre aux besoins les plus pressants du camp, notamment en vivres et en abri.
L'actualité, c'est aussi la journée internationale de la femme africaine, célébrée ce jeudi 31 juillet. À Goma au Nord Kivu, la fondation Biester, en collaboration avec la section JAR de la Monisco, a dans ce cadre réuni hier une trentaine de femmes issues de diverses organisations. Ceci à travers un atelier qui traitait du renforcement de leurs capacités en leadership et en résilience. Selon la directrice générale de la fondation Biester, Aisbel, l'objectif est de faire de la femme une actrice de la paix, en particulier dans cette zone affectée par la crise sécuritaire. sécuritaire et humanitaire qui touche les femmes. Suivons Zaïna Mignonne.
Présentement, la femme est animée par la peur de dénoncer certaines violences basées sur sa personne. Il y a aussi des violences sexuelles que la femme ne sait pas comment dénoncer parce que nous sommes dans une période d'insécurité généralisée dans tout le Nord Kivu. La femme est en première victime des guerres. Elle a toujours des douleurs autour d'elle. Elle reste veuve parce que le mari est tué. Elle a beaucoup d'enfants à prendre en charge. Elle n'a pas de boulot. Et dans l'incertitude, la femme a perdu d'espoir. Alors, par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'est faire une assise d'éveil sur la journée internationale de la femme africaine. On voulait à ce que les femmes de différentes couches qu'on raisonne sur la question des paix. Pourquoi est-ce que cette guerre persiste? Quelle est la part de la femme dans cette guerre? Parce que, étant la première victime de la guerre, il est temps que la femme se réveille, qu'elle soit actrice de la paix.
Par ailleurs, à Matadi au Congo central, les activités socio-économiques sont paralysées au marché du pont Maréchal et dans les résidences environnant ces lieux de négoce. En cause, le manque d'électricité depuis plusieurs jours dans ces quartiers. La direction régionale de la SNEL au Congo central ne communique pas jusqu'à présent sur l'ampleur de la panne ayant conduit à cette situation. Radio Kapi Matadi, Nana Plurichimambu.
Ça fait près de deux semaines que les habitants de la cellule OEBK située vers les ponts Maréchal sont dans les noirs. Ce manque d'électricité a non seulement ouvert la voie aux voleurs dans cette cellule, mais il a également impacté les activités économiques au niveau du marché du pont Maréchal. Les tenanciers des maisons de vivres frais disent avoir fait faillite car leurs marchandises ont pourri. Les moulins sont inopérants. Un calvaire décrié par les habitants de ces quartiers. Fidèle Bofani est l'un d'eux.
Ça fait 10 jours déjà que nous n'avons pas de courant dans ce quartier. Moi-même, j'habite là-bas. Il y a des cas de vol qu'on a constatés au niveau du quartier. Et aussi, il y a beaucoup de populations de ces coins-là. Notamment moi-même aussi, j'ai perdu mes bifs qui étaient dans notre congélateur. Et nous avons appelé les dépanneurs de la SNEL, mais ils nous promettent, non, les dossiers reconnus au niveau de la hiérarchie. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de courant.
Selon les responsables du centre de vente et de services de la SNEL Congo Central que nous avons contacté, l'absence du courant était due à une petite panne qui a déjà été décantée. Malheureusement, cette version diverge avec la réalité sur terrain, s'indigne la population. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les travaux de réhabilitation et de construction des avenues Ngiringiri et Gambela dans les communes de Bumbu et Ngiringiri évoluent plutôt bien. Lancé le 5 mars dernier, il vise à relier les avenues Kasavubu à Ngiringiri et à Landou un peu plus loin. Il devrait durer 9 à 10 mois selon un des responsables des travaux trouvés sur place. C'est la joie pour les habitants malgré quelques désagréments pour se déplacer à cette étape. Rachel Kalombe s'est rendue sur place. Voici son reportage.
Les travaux avancent comme prévu, selon Ferrari Massiala, représentant de la mission de surveillance du ministère provincial des infrastructures. Il explique les révolutions.
Il y a une partie réhabilitation. Il y avait déjà une couche de roulement, mais en bitume, qui est réhabilitée en béton cette fois-ci. Puis il y a le tronçon qui va de croisement avenue Ngiringiri jusqu'à Landou Chaba, qui sera entièrement fait en béton.
Les habitants de ces coins de la ville disent être satisfaits de cette initiative qui va les aider à se mouvoir. Les deux avenues se trouvaient dans un état de délabrement très avancé et la partie des Bumbu a toujours été en terre.
Je n'ai pas être vrai par rapport à ces travaux qui se font, parce que ce coin semblait être un peu négligé et oublié de la ville. Et c'est une première depuis que je suis né dans ce coin, c'est ma première fois de voir. Voilà, on est en train de réhabiliter notre coin.
Les habitants déplorent en même temps les inconvénients liés à ces travaux. Au moins 5 avenues sont bloquées à la circulation. Conséquence, piétons et conducteurs de véhicules parcourent de plus longs trajets pour aller vaquer à leur occupation. Le souhait est que ces travaux prennent fin dans un bref délai.
Actualité internationale.
Lors d'un vote organisé ce mercredi 30 juillet à Kigali, tous les députés rwandais ont endossé l'accord de paix avec la RDC signé sous l'égide des États-Unis le 27 juin dernier à Washington. Ce texte, qui avait déjà reçu l'aval du Conseil des ministres, a été approuvé par l'Assemblée nationale rwandaise. Dans une forme de plébiscite, les députés l'ont endossé à l'unanimité après avoir écouté le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui a rappelé que les mesures de défense rwandaises ne seraient pas levées tant que le groupe FDLR ne serait pas démantelé, détaillant au passage le processus attendu pour y parvenir.
L'invité.
C'est Roger Claude Luanga, professeur de droit et de négociations internationales avancées à l'université Emory à Atlanta aux États-Unis d'Amérique. Il propose un instrument pour mesurer l'application de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin dernier à Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des USA. Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui l'a été partiellement et qu'est-ce qui n'a pas du tout été réalisé? Le professeur Roger Claude Luanga répond dans cet entretien avec Alain Rongmouchinge.
Bonjour professeur Roger-Claude Luanga.
Bonjour monsieur Irung.
Que peut-on retenir de cette première évaluation selon votre étude un mois après la signature de l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique?
Que retenir de cette première évaluation? Entre le 27 juin et le 27 juillet, seulement 8 des 30 tâches prévues dans l'accord de paix de Washington ont connu un début d'exécution. Selon le tableau de la mise en œuvre par tâche, les 8 engagements qui ont connu un début d'exécution entre le 27 juin et le 27 juillet incluent l'interdiction d'actes hostiles et d'agressions dont l'exécution a été minimale, le respect de l'intégrité territoriale de chaque pays, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda, la protection des civils, le retour des réfugiés, le retour des déplacés internes qui ont connu des exécutions initié. Ensuite, il y a le soutien de la communauté régionale et internationale aux signataires dont l'exécution a été intermédiaire. Et enfin, la création du comité de surveillance conjointe dont l'exécution a été initiée. Toutefois, il est impérieux d'apporter quelques clarifications. Premièrement, la majorité de ces 22 tâches restantes et non exécutées ne pouvaient pas être mises en œuvre de manière autonome, car leur réalisation dépend directement de l'accomplissement préalable de certaines tâches principales. Autrement dit, plusieurs de ces actions sont étroitement liées à des étapes clés du processus de paix et ne peuvent donc être activées qu'une fois les conditions essentielles posées par d'autres tâches principales ont été remplies. C'est cette interdépendance qui souligne l'importance d'une séquence stratégique et coordonnée dans la mise en œuvre de l'accord. Deuxièmement, bien que le taux d'exécution puisse paraître relativement faible sur le plan strictement arithmétique, il constitue néanmoins un résultat encourageant compte tenu du fait que l'accord a été signé il y a à peine un mois. Donc, ce niveau d'exécution à ce stade reflète dans une certaine mesure une volonté initiale de mise en œuvre et doit être interprété comme une base de départ sur laquelle il est possible de bâtir davantage.
Professeur, vous le savez, il est difficile de ne pas faire un lien entre l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda, ainsi que l'accord de principe signé à Doha entre la RDC et la FCM23. Pourtant, les affrontements sur terrain ne cessent pas. Quelle est votre analyse à ce sujet?
Merci pour cette question pertinente. Vous avez pleinement raison. Mon évaluation couvrant la période du 27 juin au 27 juillet tient compte de cette réalité. Certes, on observe une diminution globale des hostilités et un recul de la rhétorique belliqueuse, mais des combats résiduels montrent que le cessez-le-feu est encore partiellement respecté. C'est précisément pour cela que cette évaluation préliminaire est cruciale. Elle permet de détecter les failles dans la mise en œuvre, notamment l'absence d'un mécanisme de coordination de la sécurité opérationnelle et d'alerter les parties prenantes sur les risques d'enlisement. La paix ne se décrète pas, elle se construit étape par étape, et l'évaluation indépendante est un outil essentiel, contentieux.
Pour terminer, quelles recommandations pouvez-vous formuler à la RDC, au Rwanda et à la communauté internationale pour que l'accord de Washington soit un succès?
D'abord, élaborer un chronogramme technique complémentaire à l'accord, avec des délais clairs et réalistes pour chaque tâche, y compris celle formulée encore de manière vague. Accélérer la mise en place du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité avec des procédures normalisées et un dispositif de vérification indépendant. Reviser le CONOPS à la lumière de la nouvelle réalité sur terrain, notamment en tenant compte de la perte de contrôle de certaines zones par le gouvernement congolais. Et cette révision pourrait, par exemple, faire l'objet d'un addendum technique, redéfinissant les modalités pratiques de la neutralisation de FDLR et du désengagement des forces rwandaises, mettre en œuvre sans délai le comité conjoint de surveillance en organisant dès que possible une réunion préparatoire en amont de la session inaugurale prévue le 11 août, inclure ou renforcer l'inclusion des structures régionales ou de la société civile locale dans le suivi de la mise en œuvre de l'accord en leur fournissant un appui logistique, méthodologique, financier adéquat pour fonctionner de manière continue.
Professeur Roger-Claude Luanga, je vous remercie.
Voilà qui met fin à ce journal mis en onde par Pierre Diassinois. La coordination et la supervision assurée par Alain Irung. Merci à vous de l'avoir écouté et de le retrouver sur www.radiocapi.net.